Alors, je vais donner la parole à Madame Delouze, qui est chercheur associée au Centre d'anthropologie culturelle à l'Université Paris-Picard, ancienne ATER dans la même université, habilitée pour les fonctions de maître de conférence. C'est qualifié, évidemment. Elle y a soutenu en 2010 une thèse sur dire la danse contemporaine, ses biologies textuelles et analyser l'énonciative d'entretien avec des chorégraphes sous la direction de Madame la professeure Marie Audubon. Elle est bénéficiaire du fonds de recherche du Centre national de la danse à Paris et spécialiste en sémi-anthropologie des pratiques corporelles et dansées au Maghreb. Et sa communication va porter sur le... Donc, Dikage, Liberali, Francophonie, Laïki, les mots de la révolution tunisienne dans sa création, circulation et
cette communication souhaite aborder la révolution tunisienne du point de vue des productions linguistiques et discursives. Un premier et long travail de recherche sur l'incroyable destin du mot dégage dans les révolutions arabes, et sur lequel je ne reviendrai que très brièvement, nous avait permis d'observer le consensus autour de ce terme. Contrairement à d'autres tels que laïcité, charia, sionisme, modernisme, qui sont des mots qui contribuent à la polémique actuelle post-révolutionnaire, Dégage avait, à une certaine époque, réuni tous les Tunisiens dans une cause commune contre la répression. Dégage, mot de lutte, aurait ouvert la voie vers des mots plus conflictuels, vers ce que Alain Badiou pourrait appeler des non-séparateurs. Et c'est justement l'articulation entre le linguistique et le politique, entre le dire et le faire, entre mot et histoire, couvrira et permettra une réflexion sur l'ensemble de ces termes. Pourquoi le terme français « dégage » a-t-il trouvé une destinée, une légitimité dans les révolutions arabes? Quels sont les autres termes qui ont marqué cette période de mutation démocratique? Quelle est leur valeur sociolinguistique et éthico-politique? Le questionnement porte donc sur les règles et les conditions de l'apparition de ces énoncés à un moment donné d'un point de vue énonciatif et d'analyse de discours. Depuis des années, et encore plus après les événements du printemps arabe, la langue arabe s'est pliée aux nouveaux dispositifs, type Facebook, texto, blog. On parle désormais du arabisi, qui est une sorte de mot-valise formé par arabi et englisi, arabe et anglais. L'arabisi, c'est une nouvelle langue qui consiste en la retranscription de la langue arabe en lettres latines, notamment grâce au mélange de lettres et de chiffres. Par exemple, le chiffre 3 pour le Aïn, le 9 pour le Qaf, le 7 pour le Ha, El Had, comme vous voyez. Des diglossies spécifiques de l'oral sont désormais repérées à l'écrit. Le succès de l'arabisi a ouvert un véritable débat sur le devenir de la langue arabe. Alors que certains craignent sa disparition et regrettent ce nouvel usage latiniste, d'autres estiment l'arabisi comme renouveau de cette langue qui fait son entrée sur le web et qui permet aux arabophones d'échanger plus simplement et surtout de pratiquer l'arabe. Pour Yves González-Quirano, spécialiste de ces questions, l'arabisi serait une sorte de printemps linguistique ou encore un arabe du troisième millénaire. En effet, avec l'arabisi, la langue qui se détache du sacré en se bâtardisant ou en se créolisant, rompt avec la nation en se déterritorialisant. Le parti islamiste Nahda a annoncé haut et fort depuis sa victoire à l'Assemblée constituante qu'il fallait combattre ce qu'il qualifie de pollution linguistique. Donc ce sont les propos du chef du parti, Rachid Ranouchi, le 26 octobre 2011 sur les ondes de Radio FM. De Radio Express FM, pollution linguistique. C'est-à-dire le tunisien et le français. Le tunisien étant, selon cette logique, le signe du délitement et du laxisme culturel, mouyoura, et le français le signe de la colonisation linguistique et intellectuelle. Ce projet aux allures postcoloniales a pourtant un tout autre objectif. Réinstaurer l'arabe classique comme la langue, comme une langue, celle d'une nation, celle d'une identité arabo-musulmane, afin d'effacer les traces de la multiplicité de la culture maghrébine. Pourtant, et malgré les accusations des partis conservateurs, le mot de combat choisi par les Tunisiens le jour où Ben Ali fut chassé a été un mot français. Le terme, il faut le noter, est phonologiquement altéré dans ses usages où on entend souvent « digage ». Il serait donc pris dans un certain processus d'arabisation. Par ailleurs, nous avons relevé, lors des dernières manifestations du parti islamiste en Tunisie, suite aux déclarations du ministre de l'Intérieur français condamnant l'assassinat de Chokri Belaïd, l'usage de dégage dans « França dégage », « La France dégage ». Certes, on n'en est plus à une contradiction près en Tunisie, mais on ne peut que s'étonner de cette contradiction qui consiste à utiliser un terme français pour dénoncer l'ingérence de la France dans la politique tunisienne. Dans un article sur les enjeux langagiers de la révolution tunisienne, la regrettée Nabi Hajrat explique, je la cite, « Un vieux monsieur a dit à la télévision à la fin de janvier 2011, ce sont les Français qui nous disaient « Digage ». C'est un mot que la mémoire collective a réactivé, pourrait-on dire, par la nouvelle génération. Mais c'est un mot qui a été transmis aux Tunisiens, par les Tunisiens. Si les militaires français usaient du terme vis-à-vis des Tunisiens autochtones, et peut-être au sein de l'armée, alors ce mot se serait inscrit dans une mémoire collective au sens de Halax. Dégage, mot français, a été exporté dans le reste du monde arabe comme un énoncé tunisien. L'altération phonétique appuie cette appropriation et l'arabisation du terme. Digage, terme tunisien, devrait aujourd'hui trouver sa place dans un dictionnaire de langue tunisienne. Un groupe de cyberactivistes ont d'ailleurs mis en ligne une sorte de dictionnaire humoristique de la révolution tunisienne où digage est défini comme, je les cite, mot d'ordre de la révolution se conjugue librement avec Zaba, Moubarak ou Kadhafi. Ce mot d'ordre a réuni les manifestants au moment des événements du printemps arabe, participant à une sorte de rêve généralisé, d'une société idéalisée, alors que les mots d'ordre qui vont apparaître par la suite seront ceux du désenchantement et de la séparation. Après la période de la révolution en Tunisie, on a pu entendre dans différents débats politiques houleux de nouvelles insultes telles « espèce de laïque, de démocrate ».« Tu n'es qu'un moderniste, un bureaucrate ». Attention, c'est un progressiste. Pire, c'est un francophone. Les mots des modernistes et ceux des conservateurs s'opposent désormais dans un champ de bataille qui se voudrait démocratique. Nous avons réussi, nous avons uni un corpus constitué d'échanges discursifs extraits de pages Facebook officielles de certains partis, par exemple Harakat al-Nahda, le parti de la Nahda, ou bien Shabab al-Nahda, les jeunes de la Nahda, ou encore moins officiels comme Farah al-Yassar al-Tunisi, les scandales de la gauche tunisienne. Nous avons relevé la récurrence de plusieurs termes dans ces discours. Laïque, bureaucratie, libéral, technocrate. Laïque, bureaucrate, libéral, technocrate. Et la question consiste à comprendre pourquoi ces termes sont-ils assujettis à un phénomène d'arabisation par suffixation d'un marqueur syntaxique, le « i », à la racine latine. Laïque, donc on garde la racine latine et on suffixe le « i », le marqueur syntaxique. Et pourquoi on n'a pas fait le choix d'une traduction qui est tout à fait possible et qui existe même ? Alors, plusieurs hypothèses sont possibles. La première, économie linguistique. C'est plus facile à retenir, plus court. La deuxième, difficulté de traduction. Les questions liées à la traduction de concepts occidentaux a été posée dès la deuxième moitié du XIXe siècle en Égypte. Une préférence est remarquée à cette époque pour la retranscription arabe des termes latins. Par exemple, on va trouver souvent dans ces textes-là des groupes de mots comme « soucieliste » ou « communiste » ni « nihiliste ». Donc socialiste, communiste, nihiliste, qui vont toujours être utilisés ensemble. Dans un travail sur la traduction et l'idéologie, Anwar Merid étudie les premières traductions des textes marxistes en langue arabe et explique ce procédé linguistique qui consiste à garder la racine latine par une manière de marquer l'étrangeté de ces idéologies venues d'ailleurs et pouvant remettre en cause la puissance divine. Ce procédé d'arabisation par suffixation de la racine latine réactive dans les mémoires des énonciateurs arabophones qu'il s'agit bien là de termes venus d'ailleurs, envahisseurs et mettant en cause leur assignation identitaire. Notons tout de même une certaine ambivalence, voire même une aporie. Garder la racine latine de ces énoncés est une forme d'assujettissement à la langue dominante et à la charge connotative et sémantique que porte chacun de ces termes. En les traduisant, ils perdent nécessairement quelque chose de leur valeur sémantique et peut-être réappropriés par les nouveaux systèmes de la langue arabe. Rappelons que c'est en 1879 que Fares Achedière a pour la première fois traduit le terme socialisme par Ishtirakiya et le terme communisme par Ibahiya, qui renvoie à un laxisme et libéralisme moral. Ibahi signifie en arabe pornographique. Film Ibahi veut dire un film pour nous. Voilà une idée bien sexy de l'idéologie communiste. Il me semble que ce choix du procédé d'arabisation à la place de la traduction, fait partie d'une stratégie politique de polarisation et de stigmatisation. Ces termes, laïcs et maçons et bureaucrates, y participent à un usage propagandiste dans certains discours du mépris et du rejet de l'autre. Il est symptomatique d'une paranoïa ambiante qui voit l'étranger comme forcément étrange et menaçant. Nous pouvons parler d'un flou sémantique qui caractérise tous ces termes et leur attribue une connotation négative. D'un point de vue idéologique, ce flou sémantique peut être instrumentalisé dans la mesure où le brouillage de sens est une stratégie possible pour discréditer un mouvement ou un parti. Le terme laïque en est peut-être le meilleur exemple. En effet, il existe deux mots équivalents dans la langue arabe. Le premier correspond à une arabisation du terme, laïki. Le second à une traduction, al-meni. Al-meni détient tout de même un trait de sens qui réfère à la science et à la rationalité, et qui peut par ailleurs être confondu avec al-mewi, qui veut dire positiviste. Donc voilà une caricature où on présente un laïc dans un zoo. En 2015, et le monsieur le présente donc, aux enfants en disant « voici un être laïque, il se nourrit de livres et vit dans les librairies ». Ou encore, on voit que sale pute, laïque, salope, c'est un peu mis sur le même niveau. Ces deux termes utilisés pourtant de façon synonyme dans les usages discursifs, elle-même et laïque, on peut noter la présence du terme laïque dans les dictionnaires arabes récents et l'absence de laïque. Dans les dictionnaires français arabes, laïque séculier est souvent traduit par laïque et jamais par laïque. Dans cet extrait de corpus, l'auteur semble faire la différence entre les deux. Alors, je le cite, les laïcs, dit-il, sont les ennemis de la religion. Il faut les combattre. Pour les laïques, sont ceux qui croient à la raison et veulent séparer la religion de l'État. Les traits de sens attribués à laïcs sont hérétiques, sans foi, ennemis de la religion, colonisés, francophones, collaborateurs. Comme en témoigne la suite de la citation, de ce qu'on peut trouver sur ces pages Facebook, ceux qui tiennent à la laïcité sont en vérité des extrémistes progressistes qui veulent assassiner l'identité arabo-musulmane afin que le pays devienne une aire géographique liée à la francophonie coloniale. On remarque comment ce terme est pris dans la nasse d'une charge d'affect qui participe à sa resémantisation. Un autre terme, cette fois arabe, devenu populaire après la Révolution, témoigne aussi de ce vertige sémantique, séfirat. Il divise désormais les Tunisiennes en deux. Séfirat sont celles qui ne portent pas le voile. Pour la première fois, les Tunisiennes non voilées sont stigmatisées, dénommées, à l'aide d'un terme par leurs compatriotes. Notons que le terme a une valeur sémantique très ambiguë. Il réfère aux femmes qui montrent leur visage, mais aussi aux arbres qui perdent leur feuillage et aux hommes qui souffrent de calvitie. Ainsi, le trait sémantique du manque et de la perte attribue au terme une connotation négative. Quelle fut ma surprise il y a à peu près un an quand une de mes amies m'a appelée de Tunisie pour me dire que le président de la République vient de traiter les Tunisiennes envoilées de putes. Certes, Marzouki nous a habitués à ses originalités et autres maladresses, mais à ce point, je me disais, mais en fait, il avait simplement utilisé le terme séfirat qui avait été à ce moment-là ressenti par les femmes non voilées comme une insulte. Ce brouillage de sens et l'attribution d'un pathos négatif à tous ces termes participent à instaurer un parasitage de la pensée et un mépris de l'autre dans sa différence. Tous ces énoncés évoqués sont des appellatifs identitaires, dans la mesure où ils qualifient un sujet en l'identifiant par rapport à son appartenance ou à un groupe social ou politique. L'analyse discursive et énonciative des récurrences de ces termes dans notre corpus est caractérisée par le glissement sémantique évident qui leur attribue une valeur nouvelle, celle de l'insulte. En effet, laïc, irelmen, francophone et hadethi sont devenus des formes de stigmatisation discursive. Les appellatifs identitaires détiennent un tout autre système de valeurs que les axiologiques, du type moche, con, bête, ou l'insulte du type tapette, sale pute. Ils sont liés normalement à un minimum de neutralité ou d'objectivité. Dans l'énoncé « c'est un arabe »,« arabe » ou « c'est un juif », »,« arabe » ou « juif » sont des termes institués officiels qui renvoient un certain type d'appartenance. Il y a donc eu condensation d'un trait de sens négatif qui s'inscrit dans la mémoire discursive des sujets parlants. Ainsi, ce trait de sens négatif devient dominant un certain moment de l'histoire et donne au mot une autre signification. Nous avons repéré différentes stratégies énonciatives permettant ce glissement sémantique. Alors, par exemple, il y a la stratégie de l'accumulation et de la juxtaposition. Il s'agit de mettre tous ces appellatifs avec des termes injurieux. Je prends des exemples du corpus. Grève, assassinat, terrorisme, complot. Voici donc la démocratie que souhaitent instaurer les progressistes à l'esprit des Lumières. Donc on voit comment le mot progressiste, qui est juste un identitaire, enfin, un mot neutre normalement, est mis à côté de tout ce champ sémantique péjoratif. Une organisation sioniste franc-maçonne à laquelle appartiennent un nombre des mercenaires et des collaborateurs, à leur tête, Mohsen Majdoub et Rina Benhani. On peut trouver aussi des constructions du type Masouni Massar, Hadeti Massar, salle franc-maçon ou salle progressiste. Il s'agit ici de la même construction qu'on retrouve dans salle arabe, où l'insulte est marquée par l'axiologique salle, normalement, et non l'appellatif arabe. D'où cette anecdote d'une personne à qui on adresse cette insulte et qui répond « Ce que vous dites n'est vrai qu'à moitié puisque j'ai pris ma douche ce matin. » Donc, il y a aussi zéro virgule. Alors, zéro virgule est un terme, un autre appellatif qui est apparu juste après les élections du 23 octobre 2011. Et en fait, les zéro virgule sont les partis progressistes qui ont fait un score lamentable. Alors, là, c'est un relevé récent du corpus qui s'adresse à Maya Jeribi, une députée tunisienne. On dit « Maya, la rate, la pute, la zéro virgule, ton parti est celui des sandwichs au thon avec mes respects pour les femmes, mais Maya, le cafard, n'est pas une femme. » Donc on voit ici comment on va mettre sur, c'est très délicat effectivement, on voit ici comment on va mettre sur le même champ sémantique la pute, la rate, le cafard et zéro virgule. Donc il s'agit d'une construction synonymique où mettre sur un même plan différents termes qui renvoient à des réalités différentes. Par exemple, Mohsen Majdoub, Massouni, Hadith, Yarami, Fransa, Milaïk, Il Massar, tout, enfin vraiment mis sur le même. Et ajoutant aussi ce qui peut donner une valeur insultante à tous ces termes, à tous ces identitèmes, c'est le ton, la gestualité, le corps, un corps de l'insulte. Tous ces termes apparemment neutres, officiels, institués, deviennent chargés sémantiquement et attribuent à celui à qui ils sont adressés un positionnement éthique particulier. En effet, ils prennent en charge des affects sémantiques et leurs usages ne peuvent échapper à une rhétorique, du moins pathétique, au sens de pathos. Le recours aux affects et aux effets du pathos sont constitutifs de tout discours politique. Mais ce qui retient notre attention, c'est la prédominance d'affects négatifs dans ces discours et l'absence d'humour. L'autre à qui il s'adresse n'est plus un sujet, dans la mesure où il y a une négation de sa dignité. Ces mots séparateurs participent à un discours officiel de la haine de l'autre dans sa différence. Plusieurs travaux ont montré comment le pathos négatif constitue un trait du discours politique totalitaire. Alicia Kaprat montre comment la propagande totalitaire communiste dans le bloc des pays dits de démocratie populaire utilisait un langage basé sur la haine et le mépris afin d'anéantir ses adversaires. Ces termes nouveaux comme zéro virgule ou ceux qui sont réactualisés comme Sefirat, Massouni, Laïki, Liberali font désormais partie d'une mémoire collective et discursive. Formerait-il un nouveau vocabulaire d'une novlangue orwellienne où les confusions sémantiques, l'appauvrissement linguistique et le brouillage du signifiant sont les stratégies évidentes du discours propagandiste. Tout discours est marqué, politiquement et daté historiquement. Jean-Pierre Faye, dans son travail sur le discours totalitaire, explique « Parce que l'histoire ne se fait qu'en se racontant, une critique de l'histoire ne peut être exercée qu'en racontant comment l'histoire, en se narrant, se produit. » Laïki ou l'Allemagne, Hadeti ou Liberali, ces mots se racontent l'histoire entre continuité et rupture. Quand en 1850, Victor Hugo à l'Assemblée déclarait que la laïcité fait sortir l'éducation de la sacristie et le gouvernement du confessionnal, il était remis à l'ordre par le président et chahuté par le reste des députés. En 1905, le socialiste Maurice Allard s'écrit « Dites-moi ce que l'infini a de commun avec votre Dieu anthropomorphe, avec ce fabricant maladroit d'un monde raté, sans que ses propos ne soient l'objet d'une quelconque colère. » Aujourd'hui, en 2013, en Tunisie, Jabar, jeune étudiant de 28 ans, est écroué dans sa cellule pour 7 ans de prison pour crime de laïcité. Les mots sont mémoriels, on le sait désormais. Ils rallient une mémoire individuelle du sujet qui les utilise ou les subit à une mémoire collective d'un pays au mal de rupture. Les forces créatrices, l'humour, les mots d'esprit, les caricatures, le néologisme se sont libérés depuis la Révolution. Et peut-être, dans ce champ de bataille entre négativité et créativité, seront-ils un jour les nouveaux mots d'ordre de la langue de la Deuxième République tunisienne ?